Chapitre 15. Retour à Bilberry Street. Les autres hommes auront mes défauts, mais aucun n'aura mes qualités. Pablo Picasso. 1. Gaspard revivait, comme une plante que l'on aurait arrosée après des jours sans eau. Le pouls de Manhattan, son tempo, le froid piquant et sec, le bleu métallique du ciel, le soleil d'hiver qui décochait ses derniers rayons, tout résonnait en lui de manière positive. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait combien son psychisme était perméable à son environnement. Le climat, notamment, déteignait sur lui, le modelait, amplifiait son humeur. La pluie, l'humidité et la moiteur pouvaient le faire plonger dangereusement, et une vague de chaleur le mettre KO. Cette instabilité compliquait sa vie. Mais avec le temps, il s'était résolu à vivre avec ses hauts et ses bas. Aujourd'hui était un jour parfait. L'une de ces journées qui comptait double ou triple. Il fallait qu'il en profite pour avancer dans son enquête. Il s'orienta grâce au vieux plan trouvé dans la bibliothèque de Lorenz. Il prit à droite, sur Madison, avant de contourner un large espace vert, le parc Marcus Garvey, et de déboucher sur l'avenue Lennox, qui, dans cette partie de Harlem, s'appelait Malcolm X Avenue. Un coin de rue, il s'offrit un hot dog et un café chez un vendeur ambulant, puis reprit sa marche vers le nord. Bilberry Street, où avait été assassiné Adriano Sotomayor, était une ruelle bordée de maisons de briques rouges et de châtaigniers, coincée entre la 131e et la 132e rue. L'endroit rappelait un peu les constructions du Vieux Sud, avec des perrons assez hauts et une profusion de balustrades et de vérandas en bois repeints de couleurs vives. Gaspard flâna 10 minutes dans la rue déserte en se demandant comment il pourrait bien retrouver l'ancienne maison du flic. Il releva les noms sur les boîtes aux lettres. Faraday, Tompkins, Langlois, Fabianski, Moore. Mais rien ne lui parla.
« Fais attention, Théo !»«
D'accord, papa. » Gaspard se retourna en direction d'un petit groupe qui venait d'arriver sur le trottoir d'en face. Comme dans un film de Capra, un père et son bambin traînaient un sapin de Noël de bonne taille. Marchaient derrière eux une belle métisse un peu hautaine et une femme noire plus âgée vêtue d'un trench transparent, de cuissardes en cuir fauve et d'une toque léopard.
« Bonjour !» les salua-t-il en traversant. « Je recherche l'ancienne propriété de Monsieur Sotomayor. Ça vous dit quelque chose ?»
Le père de famille était poli et avenant, tout disposé à l'aider, mais ne paraissait pas habiter ici depuis longtemps. Il se retourna vers celle qui devait être sa femme.
« Sotomayor, ça te dit quelque chose, chérie ?»
La métisse plissa les yeux, semblant convoquer des souvenirs lointains.
« Je crois que c'est là-bas, »
dit-elle en désignant une maisonnette au toit pentu. Elle interrogea la femme à côté d'elle.
« T'entends Angela ?»
L'afro-américaine considéra Gaspard avec suspicion.
« Et pourquoi je répondrais à ce blanc-bec ?»
La métisse l'attrapa par les épaules dans un geste plein d'affection.
« Allons, tante Angela, quand vas-tu cesser de te faire plus méchante que tu ne l'es ?»«
Ok, ok, »
capitula-t-elle en réajustant ses lunettes de soleil oversized.
« C'est au numéro 12, chez les Langlois. »«
Langlois ? Ça sonne français comme patronyme, » constata Gaspard. Maintenant qu'elle était lancée, la tante Angela n'était pas avare d'explications.
« Après la mort de ce flic, un type vraiment bien d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, vous pouvez me croire. C'est sa cousine Isabella qui a hérité de la maison. Elle est mariée avec André Langlois, un ingénieur parisien qui travaille à Chelsea, dans l'immeuble de Google. Plutôt bien élevé pour un Français. Il m'a aidé plusieurs fois à tailler mes haies et lorsqu'il se met au fourneau, il m'apporte parfois une part de son lapin à la moutarde. »
Gaspard remercia la famille et remonta la rue sur 50 mètres pour sonner à la maison qu'on lui avait indiquée. Une petite brownstone dont la porte d'entrée était décorée d'une volumineuse couronne en branches de houx et de sapin. La femme qui lui ouvrit, une latino à la chevelure dense et au regard caliente, portait un tablier de cuisine à carreaux Vichy et tenait dans les bras un enfant. Eva Mendes, version Desperate Housewives. « Bonjour madame, je suis navré de vous déranger. Je recherche l'ancienne maison d'Adriano Sotomayor. On m'a dit que c'était ici. »«
Ça se pourrait ?»
répondit-elle, un brin méfiante.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»
La méthode Coutances. Amender la vérité, flirter avec le mensonge, sans jamais y plonger tout à fait.
« Je m'appelle Gaspard Coutances. Je suis en train d'écrire une biographie du peintre Sean Lawrence. Vous ne le connaissez sans doute pas, mais...
Moi, je ne connais pas Sean,
l'interrompit la propriétaire.
Si vous saviez le nombre de fois où il a essayé de me mettre la main aux fesses.
2. Eva Mendes s'appelait en réalité Isabella Rodriguez. Accueillante, elle n'avait pas été longue à inviter Gaspard à entrer se réchauffer dans la cuisine. Elle avait même insisté pour lui servir un verre d'eggnog sans alcool, le même lait de poule dont se régalaient ses trois enfants en train de prendre un goûter tardif.
Adriano était mon cousin Germain,
expliqua-t-elle, en rapportant du salon un vieil album photo à la couverture toilée. Elle tourna des pages, faisant défiler des clichés d'enfance, et détailla son arbre généalogique.
Ma mère, Maricella, était la sœur d'Ernesto Sotomayor, le père d'Adriano. Nous avons passé toute notre enfance à Tiburton, un village du Massachusetts, près de Gloucester.
Sur les photos, Gaspard distingua des paysages qui lui rappelèrent certains coins de Bretagne. Une lande marine, un petit port, des barques rudimentaires qui alternaient avec des chalutiers et des bateaux de plaisance, des cabanes de pêcheurs et des maisons d'armateurs à pans de bois.
Adriano était un bon gars, précisa sa cousine. Une vraie crème. Et pourtant, on ne peut pas dire que la vie était clémente avec lui.
Elle montra d'autres vieilles photos à Gaspard. Des scènes d'enfance. Les deux cousins qui faisaient des grimaces, qui s'aspergeaient d'eau autour d'une piscine gonflable, qui se balançaient côte à côte sous un portique en ferraille, qui transformaient une citrouille en Jack O'Lantern. Mais Isabella s'empressa de dissiper l'illusion de ce tableau idyllique.
Malgré la joie apparente sur ses tirages, Adriano n'a pas eu une enfance harmonieuse. Son père, mon oncle Ernesto, était un homme violent et ombrageux qui avait l'habitude de se défouler sur sa femme et sur son fils. Pour dire les choses autrement, Ernesto cognait fort et souvent.
La voix d'Isabella se fêla. Pour conjurer ses mauvais souvenirs, elle posa sur ses enfants son regard qui débordait d'affection. Assis autour de la table de la cuisine, deux des gamins gloussaient, un écouteur à l'oreille, les yeux vissés sur une tablette. Le plus jeune était quant à lui absorbé par la réalisation d'un puzzle de grande taille, Las Meninas, le plus célèbre tableau de Velázquez. En creux, Gaspard songea à son propre père. Si gentil, si attentionné, si aimant. Pourquoi certains hommes cassaient-ils les êtres qu'ils avaient mis au monde? Pourquoi certains autres les aimaient-ils à en mourir? Il laissa cette question en suspens et se rappela ce que lui avait affirmé la fliquette du 25th Precinct, une demi-heure plus tôt. On m'a dit qu'Adriano avait été placé dans une famille d'accueil.
Oui, grâce à notre institutrice, Mademoiselle Boninsegna. C'est elle qui a signalé aux services sociaux du comté les violences d'Ernesto.
La mère d'Adriano laissait faire?
La tante Bianca? Elle avait abandonné le domicile conjugal quelques années plus tôt.
Quel âge avait votre cousin lorsqu'il a débarqué à New York?
Je dirais dans les 8 ans. Il a été ballotté dans 2 ou 3 foyers au début, puis il s'est établi ici, à Harlem, chez Monsieur et Madame Wallis, une famille d'accueil vraiment formidable, qui le considérait comme son propre fils.
Elle ferma l'album photo, puis ajouta, pensive,
« Avec le temps, Adriano et son père avaient néanmoins fini par se retrouver.
Vraiment ?
À la fin de sa vie, l'oncle Ernesto était atteint d'un cancer de la gorge. Son fils l'a accueilli et l'a soigné chez lui le plus longtemps possible. C'était cette générosité qui caractérisait mon cousin.
Gaspard recentra la discussion. Et Sean Lawrence, dans tout ça ?
3. Le regard d'Isabella se mit à pétiller.
J'ai connu Sean à 18 ans. Dès que j'ai été majeur, je suis venu passer tous les étés à New York. Je squattais parfois un peu chez une copine, mais la plupart du temps, j'étais hébergé chez les Wallis.
Elle se laissa gagner par les souvenirs du bon vieux temps.
Sean habitait plus haut, dans les Polo Grounds Towers,
se souvint-elle.
Mais lui et Adriano étaient toujours fourrés ensemble, malgré leurs 4 ans d'écart. Moi, forcément, je les suivais à la trace et j'essayais de m'incruster dans leurs escapades. Sean était vaguement amoureux de moi et je n'avais rien contre. On peut même dire qu'on a eu une relation en pointillé.
Elle prit une gorgée de lait de poule et mit plusieurs secondes pour rassembler ses souvenirs.
C'était une autre époque, un autre New York, à la fois plus libre et plus dangereux. Dans ces années-là, le quartier craignait vraiment. La violence était partout et le crack gangrénait tout. Elle prit soudain conscience que ses enfants n'étaient pas loin et baissa le ton.
On faisait des conneries, forcément. On fumait des pétards plus que de raison, on piquait des bagnoles, on taguait les murs. Mais on allait au musée aussi. Je me souviens que Sean nous traînait tous au MoMA à chaque nouvelle exposition. C'est lui qui m'a fait découvrir Matisse, Pollock, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Kiefer. Il était déjà possédé par une sorte de frénésie. Dessiner et peindre tout le temps et sur tous les supports.
Isabella laissa passer quelques secondes, puis ne put résister à la tentation.
« Je vais vous montrer quelque chose », annonça-t-elle mystérieusement.
Elle s'éclipsa une minute, puis revint avec une grande pochette qu'elle posa sur la table basse. L'ouvrant avec précaution, elle en tira un dessin au fusain réalisé sur l'emballage cartonné d'une boîte de cornflakes. Un portrait d'elle, signé « Sean, 1988 ». Un visage de jeune femme très stylisé, regard espiègle, chevelure sauvage, épaules nues. Gaspard pensa à certains dessins de Françoise Gillot par Picasso. C'était le même talent, le même génie. En quelques traits, Sean avait tout saisi. L'impétuosité de la jeunesse, la grâce d'Isabella, mais aussi une certaine gravité qui annonçait la femme qu'elle deviendrait plus tard.
« J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux »,
confia-t-elle en rangeant le crayonné dans son carton.
Forcément, il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu cette rétrospective sur le travail de Sean au MoMA, ça m'a paru fou et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs.
C'était justement là où Gaspard souhaitait en venir. Vous avez connu Béatrice Muñoz. Une ombre inquiète éteignit toute lumière sur le visage d'Isabella. Elle répondit en cherchant ses mots.
Oui, je l'ai connue. Malgré tout ce qu'elle a pu faire, Béatrice n'était pas une mauvaise personne. Du moins pas à l'époque où je l'ai fréquentée. Comme Adriano et comme beaucoup de jeunes du quartier, Béatrice était une victime. Une gamine brûlée par la vie, quelqu'un de très triste et de très tourmenté, qui ne s'aimait pas beaucoup.
Isabella resta dans la métaphore artistique.
On dit parfois qu'un tableau n'existe que dans l'œil de celui qui le regarde. Il y avait un peu de ça avec Béatrice. Elle ne s'animait que lorsque Sean posait les yeux sur elle. C'est facile à dire aujourd'hui, mais avec le recul, je regrette de ne pas l'avoir aidée quand elle est sortie de prison. Peut-être que cela aurait évité le crime dont elle s'est rendue coupable par la suite. Bien entendu, je ne l'ai pas formulé aussi crûment devant Sean, mais...
Gaspard n'en crut pas ses oreilles. Vous avez revu Sean après la mort de son fils ? Isabella lâcha une bombe.
Il est venu sonner à ma porte en décembre dernier, il y a 1 an exactement. Je me souviens de la date parce que j'ai appris plus tard qu'il s'agissait de la veille de sa mort.
Et dans quel état était-il ? Demanda Coutances. Isabella soupira.
Cette fois, je peux vous dire qu'il ne pensait plus à me mettre la main aux fesses.
4.
Sean avait les traits tirés, les cheveux sales, le visage défait, mangé par la barbe. On lui donnait facilement 10 ans de plus que son âge. Je ne lui avais pas parlé depuis au moins 20 ans, mais j'avais vu certaines de ses photos sur Internet. Là, ce n'était plus le même homme. Ses yeux surtout faisaient peur. Comme s'il n'avait pas dormi depuis 10 jours, ou qu'il venait de se faire un shoot d'héroïne.
Gaspard et Isabella avaient migré sur la véranda, éclairée par 3 lanternes en laiton. 2 minutes plus tôt, Isabella s'était emparée d'un vieux paquet de clopes qu'elle planquait dans sa cuisine, derrière des casseroles en cuivre et une passoire émaillée. Elle était sortie allumer une cigarette dans le froid polaire, espérant peut-être que les volutes de fumée envelopperaient ses souvenirs d'un baume qui les rendrait moins douloureux.
Ce n'était pas la drogue qui mettait Sean dans cet état. C'était le chagrin, bien sûr. Le plus lourd des chagrins. Celui qui vous ronge et vous tue parce qu'on vous a arraché la chair de votre chair.
Elle tira frénétiquement sur sa cigarette.
Lorsque j'ai revu Sean, les travaux de la maison n'étaient pas encore commencés.
Avec André, mon mari, on venait tout juste d'en prendre possession et on avait décidé d'utiliser les derniers week-ends de l'année pour la vider. Vous étiez les seuls héritiers d'Adriano ? Isabella approuva de la tête.
Les parents de mon cousin étaient tous les deux décédés, et ils n'avaient ni frère ni sœur. Mais comme la succession avait pris du temps, la maison contenait encore toutes ses affaires lorsqu'on l'a récupérée. Et c'est justement cela qui intéressait Sean.
Gaspard sentait l'excitation le gagner. Il était certain de tourner autour de quelque chose de crucial.
Sean ne s'est pas embarrassé de longs discours, confia Isabella. Il m'a montré des photos du petit Julian en m'expliquant qu'il ne croyait pas à la thèse officielle concernant la mort de son fils.
Il vous a dit pourquoi ?
Il m'a juste affirmé qu'Adriano avait repris l'enquête de son côté de manière confidentielle.
La nuit était tombée d'un coup. Dans certains jardins, des guirlandes d'ampoules illuminaient les sapins, les buissons, les palissades.
Concrètement, que cherchait Sean en venant vous trouver ? Il voulait jeter un œil dans les affaires d'Adriano, voir si avant de mourir, celui-ci n'avait pas laissé un indice concernant ses investigations.
Vous l'avez cru ?
Elle répondit d'une voix teintée de tristesse. Pas vraiment. Je vous l'ai dit. Il était tellement halluciné, tellement dingue, qu'on avait l'impression qu'il délirait ou qu'il parlait tout seul. Pour tout dire, il me faisait même un peu peur.
Pourtant, vous l'avez laissé entrer, devina-t-il.
Oui, mais pendant tout le temps où il fouillait la maison, j'ai emmené les enfants faire un tour à l'East River Plaza. C'est mon mari qui gardait un œil sur lui.
Vous savez si Sean a trouvé quelque chose ? Elle eut un sourire désabusé.
En tout cas, il a mis un sacré bordel. Il a ouvert tous les tiroirs, tous les placards, fouillé partout. D'après André, il serait reparti en prétendant avoir trouvé ce qu'il cherchait.
Gaspard sentit la fièvre monter en lui. Et c'était quoi ?
Des documents, je crois.
Quels documents ?
Je n'en sais rien. André m'a parlé d'un dossier que Sean aurait rangé dans sa besace en cuir.
Il insista.
Vous ne savez pas ce qu'il contenait ? Non, et je m'en fiche. Quoi qu'on fasse, ça ne ramènera pas les morts, n'est-ce pas ?
Gaspard éluda la question et demanda à son tour : Vous avez gardé les affaires de votre cousin ?
Isabella secoua la tête. On a tout jeté depuis longtemps. Honnêtement, à part sa voiture et un beau frigo américain, Adriano ne possédait pas grand-chose.
Déçu, Gaspard comprit qu'il s'était emballé trop vite et qu'il n'apprendrait plus rien de la cousine de Sotomayor. Vous pourrez interroger votre mari pour moi, savoir s'il se souvient de quelque chose d'autre. Serrant sa parka autour d'elle, Isabella acquiesça. Gaspard nota son numéro de portable sur le paquet de cigarettes.
« C'est très important, » martela-t-il. « À quoi ça sert de remuer tout ça ? Le petit est bien mort, n'est-ce pas ?»«
Sans doute, » répondit-il en français, avant de la remercier pour son aide. Isabella regarda s'éloigner cet étrange visiteur en écrasant son mégot dans un pot de fleurs en terre cuite. Il avait dit « sans doute ». Isabella avait de bonnes notions de français. Mais elle n'avait jamais véritablement compris la logique de cette expression. Chaque fois qu'elle l'entendait, elle se demandait pourquoi « sans doute » signifiait « peut-être » et non pas « sans aucun doute ». Il faudrait qu'elle pense à le demander à son mari.